SBS Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter la seconde partie de notre entretien avec Lionel Ménildret et Cornelis Kaeser. Ils sont négociateurs pour le compte de l'Union européenne. Ils sont venus dans nos studios pour nous parler des négociations qui sont en cours avec l'Australie pour la signature d'un traité de libre-échange. Dans la première partie de cette interview, on a beaucoup parlé de la question épineuse des appellations d'origine contrôlée. On aborde aujourd'hui les autres sujets sensibles autour de ces négociations. Dernier point sur cette question des indications géographiques, après on va élargir un petit peu le débat. Vous nous disiez tout à l'heure que les exemples passés de traités et d'accords qui ont été négociés avec d'autres pays au sein même de l'Union européenne, au final, les producteurs illégitimes, si j'ose dire, de certains de ces produits, au lieu de faire leur marketing autour du produit qu'ils vendent, ils ont simplement mis en avant leur marque qui était déjà connue. Et au final, tout va bien, il n'y a pas eu de banqueroute, etc. Bon, pourquoi pas. Ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que pour les producteurs de fromage ou de vin en Australie, enfin en l'occurrence de Prosecco, puisque vous le disiez, il y a déjà un accord plus large sur le vin, est-ce que les producteurs australiens n'ont pas plus à perdre qu'à gagner dans cette négociation et dans ce traité de libre-échange ?
Alors, pour prendre l'exemple de Prosecco, c'est un exemple particulier parce que le Prosecco n'est pas, comme on l'a déjà dit, n'est pas protégé dans l'Union européenne. Pas pour une question du fait qu'il soit générique, mais sur la base du fait que Prosecco est un cépage reconnu comme tel en Australie. Et donc, il figure, l'appellation, le terme Prosecco figure sur les étiquettes d'un certain nombre de vins australiens. Comme indication de la variété du cépage, c'est quelque chose qu'on retrouve dans bien d'autres cas pour présenter un vin, un chardonnay, un shiraz, etc. Cela étant, la question aujourd'hui est que le Prosecco a connu un essor phénoménal au niveau commercial, bien au-delà des frontières italiennes. Les efforts de promotion de ce type de produit viennent entièrement des efforts des producteurs italiens qui ont investi massivement et qui ont fait connaître mondialement ce vin originaire donc de Vénétie. Et aujourd'hui, avec une production de plus de 350 millions de bouteilles, donc c'est presque deux fois la production de champagne en volume, hein, donc c'est une production très très importante, il faut objectivement reconnaître que le succès mondial est essentiellement dû aux efforts des producteurs italiens. Donc aujourd'hui, même si nous entendons parfaitement la question de l'existence de la variété et du cépage Prosecco en Australie, lorsqu'on voit la production australienne et les références quelquefois assez évidentes à une origine italienne des vins, on vient encore une fois à l'évocation. Il est aussi légitime de s'interroger sur les motivations des producteurs australiens à continuer à utiliser Prosecco massivement de cette façon. Donc plus que perdre, il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est aussi légitime que des producteurs non italiens bénéficient aussi grandement des efforts de promotion des producteurs italiens.
Alors, on va sortir un peu des indications géographiques. J'ai encore deux, trois petites questions pour vous. On va retourner en Europe, puisque ces négociations sur des traités de libre-échange, en général, des deux côtés, ça crée un petit peu des inquiétudes et des résistances. Je prends pour exemple le cas du traité de libre-échange que l'Union européenne a signé avec le Canada. Il n'a pas été extrêmement bien perçu par une partie des agriculteurs européens. Est-ce que vous ne craignez pas que... Alors, on en parle moins, j'ai l'impression, du traité avec l'Australie, mais est-ce que vous ne craignez pas aussi qu'en Europe également, certains agriculteurs, producteurs s'inquiètent de l'arrivée prochaine de produits donc avec des taxes abaissées, voire supprimées, sur des produits australiens. Je pense notamment aux producteurs de bœuf. On sait tous que le bœuf australien est excellent. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur en Europe et comment vous vous préparez à ça?
Je crains pas que les agriculteurs s'inquiètent. Je sais que les agriculteurs s'inquiètent, puisque nous avons, dans le cadre de la préparation de ces négociations et bien en amont du lancement de cette négociation, nous avons très ouvertement, de façon très transparente, informé régulièrement toutes les parties prenantes et tous les secteurs économiques dans l'Union européenne, que ce soit pour l'agriculture ou tout autre secteur. Nous avons consulté publiquement et appelé tous les secteurs de l'économie européenne à se manifester sur leurs attentes, leurs inquiétudes. Sans surprise, donc nous avons reçu effectivement des craintes de la part d'un certain nombre de secteurs agricoles, le bœuf, le sucre et d'autres encore. C'est probablement légitime, parce que même si l'agriculture européenne est robuste, c'est globalement, il ne faut pas oublier que certains secteurs ou dans certaines régions sont beaucoup plus sensibles. L'élevage bovin notamment est un secteur qui est quelquefois le seul élevage ou la seule pratique agricole qui permet de maintenir des populations rurales, notamment dans des zones isolées où seul l'élevage permet d'avoir un revenu d'origine agricole. Je pense à pour la France notamment, les régions de moyenne montagne, le massif central ou les basses vallées alpines. Et donc ce secteur dans ces régions est extrêmement sensible. Donc s'il y a un impact négatif, c'est toute une économie de ces zones rurales qui risque de disparaître. Donc, que ce soit pour le bœuf ou d'autres produits sensibles, l'Union européenne défendra aussi cette sensibilité dans cette négociation. Donc il y a différents moyens d'adresser ces craintes, avec notamment une libéralisation partielle ou des mesures d'accompagnement de la libéralisation au profit des producteurs australiens.
Et un dernier point donc, que je voulais voir avec vous, peut-être que ça n'est pas le cas, mais je me suis laissé dire que l'un des gros sujets au cœur de ces négociations, c'était la question de l'environnement et des efforts que fait ou pas justement l'Australie pour avoir des pratiques un peu plus vertueuses. Le gouvernement actuel n'est pas particulièrement très moteur justement sur la question de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que ça pourrait être un point de blocage majeur, voire au point de faire capoter ces négociations, selon vous?
Quand vous voulez, pour s'inscrire, ça, a priori, télécharger
je ne pense pas, mais c'est certainement un sujet. Nous, on a demandé aux Australiens de référencer le traité de Paris, notamment dans l'accord. Donc, on veut être sûr que les Australiens vont rester dans l'accord de Paris et qui respectent leurs objectifs. Maintenant, ça a été reçu assez positivement par le gouvernement. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent envisager. Mais c'est certainement un sujet, et vous avez raison que ce qu'on appelle en anglais le sustainability, c'est très important. Et donc on regarde aussi dans d'autres secteurs comment on peut faire cet accord comme un moteur pour un meilleur environnement. Et notamment, on a un problème avec les standards pour l'essence de l'Australie qui sont en arrière par rapport à un bon nombre de pays, entre autres même l'Inde et la Chine. Le problème de ça, c'est que les voitures européennes les plus performantes en termes d'essence ne peuvent pas être exportées en Australie. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est que l'Australie à une pollution plus importante que qu'il pourrait avoir avec de meilleurs standards. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on discute et qui peut être une possibilité pour avoir des bénéfices pour l'environnement de cet accord.
Ben, je vous remercie tous les deux, encore une fois, d'être venus dans nos studios pour nous éclairer un peu sur ce sujet pointu et très important. On le disait au début de l'émission, 100 milliards de dollars d'échanges annuels entre l'Union européenne et l'Australie et peut-être 30 à 35% de plus demain si l'accord est signé. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.